Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Le procureur n'aura finalement pas retenu le caractère raciste de l'agression de la jeune athlète d'origine nigériane, Daisy Osaku, survenue le 29 juillet dans les alentours de Turin. D'après l'enquête, en effet, les auteurs de cette agression s'en sont pris à des passants au hasard et non en fonction de la couleur de leur peau. L'agression est néanmoins à l'origine d'un vif débat sur la question du racisme depuis quelques jours en Italie. Le gouvernement, et en particulier le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, est accusé d'entretenir un climat d'intolérance propice au passage à l'acte. Des crimes et des délits racistes en nette augmentation justement en Italie. Ils ont été multipliés par 11 en 4 ans, ce à quoi s'ajoute un certain climat de haine sur les réseaux sociaux contre les migrants, les Roms ou encore les joueurs noirs de l'équipe de France. La xénophobie s'est-elle installée dans le cœur des Italiens ou bien n'est-ce qu'une minorité radicale qui trouve un nouvel espace d'expression ? Italie vers un racisme décomplexé ? Eh bien, c'est la question que nous posons ce soir et ils sont trois invités autour de la table. Ludmila Akone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne spécialiste de l'Italie, chercheuse associée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez traduit, c'était en 2012, l'ouvrage collectif dirigé par Angelo Del Boca, Le déni de l'histoire, usage public de l'histoire et réhabilitation du fascisme en Italie aux éditions. Delga à vos côtés pour discuter ce soir, Pierre Musso. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à l'Institut d'études avancées de Nantes. Vous êtes auteur notamment de Sarco-Berlusconisme. Ça, c'était aux éditions de l'Aube en 2008. Et puis un ouvrage apparaître à la rentrée, La politique saisie par l'entreprise Berlusconi. Trump, Macron aux éditions Fayard. Et dernier invité avec nous ce soir, Alberto Toscano, bonsoir.
Buonasera.
Vous êtes journaliste et écrivain collaborateur de la Radio Radicale à Rome et vous venez de publier Un vélo contre la barbarie nazie, l'incroyable destin du champion Gino Bartali, c'est aux éditions Armand Collin et ça raconte l'histoire de ce champion de cyclisme, hein, deux fois vainqueur du Tour de France, trois fois du Tour de l'Italie si je ne dis pas de bêtises, et qui a eu un destin un peu extraordinaire, et surtout durant la Seconde Guerre mondiale. Vous nous en dites un tout petit mot ?
Oui, en 43-44, quand l'Italie était occupée, une grande partie de l'Italie était occupée par les Allemands, les nazis, il y avait une persécution antisémite extrêmement dure dans le but d'amener ces juifs dans les lagers allemands, à Auschwitz en particulier. Et un réseau s'est créé, un réseau qui voyait ensemble des rabbins et des évêques. Et ce réseau faisait en sorte que les juifs qui étaient hébergés, sauvés dans des couvents de l'Italie centrale, en particulier en Toscane et en Ombrie, puissent disposer de papiers, de faux papiers d'identité pour retrouver la liberté.
Et voilà. Gino Bartali
transportait à l'intérieur de son vélo ces faux papiers vers les couvents et permettait à ces juifs de retrouver la liberté.
Et un livre que je conseille à lire sur les plages cet été. Alors pour revenir au cœur de notre sujet ce soir, augmentation des propos et des actes racistes en Italie, est-ce que vous y voyez les uns les autres le signe, on va dire, d'une radicalisation de l'ensemble de la société italienne ou, comme je le disais, peut-être d'une certaine frange qui est devenue récemment plus visible ? Qui veut répondre en premier ? Pierre Musso.
Écoutez, je pense qu'il y a eu... Et le résultat des élections législatives de mars dernier l'a montré. C'est pas pour rien qu'il y a un gouvernement qui regroupe la Ligue de Salvini en particulier, puis le mouvement Cinque Stelle et de Di Maio, avec l'appui aussi de Fratelli d'Italia, qui est un parti pour le coup néofasciste. Donc il y a un basculement très à droite de l'Italie, avec un courant effectivement raciste et xénophobe, en particulier la Ligue et Fratelli. Et il y avait déjà dans les sondages, pendant la campagne électorale, une montée qu'on pouvait observer largement du racisme et de la xénophobie dans un pays qui traditionnellement a été un pays d'émigration et qui aujourd'hui est en difficulté. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a non seulement les déclarations de la Ligue et toute la ligne de la Ligue qui est une ligne xénophobe, mais il y a aussi les médias qui ont joué un rôle souvent négatif en associant immigration à terrorisme, à tsunami, à invasion, Par exemple, Di Maio, de son côté, le leader donc de Cinque Stelle, dit « on va pas, à propos des bateaux des ONG, financer les taxis de la mer ». Donc, il y a en revanche des forces, et je pense qu'on y reviendra,
c'est
très contradictoire, il y a des forces qui s'opposent aussi à tout cela dans la société italienne.
On va prendre le temps de détailler un peu l'ensemble des facteurs, mais sur cette première question, peut-être un peu de constat, Ludmila Aloné, quelle est votre opinion à vous ? Les idées de repli sur soi, de peur de l'autre, sont devenues à votre avis majoritaires ? Ou est-ce l'expression plus visible d'une certaine partie de l'Italie ?
Je ne pense pas qu'elle soit devenue majoritaire et je ne pense pas que les Italiens soient ni plus ni moins racistes que les autres.
Quand vous dites les autres pays européens,
je pense qu'il y a une frange raciste très importante qui se fait entendre, qui se sent autorisée à s'exprimer, qui a pensé qu'avec l'arrivée au pouvoir de Salvini, finalement, tout c'était possible. Je précise quand même, c'est important de le dire, que Fratelli d'Italia ne fait pas partie de ce gouvernement.
Ni de la majorité.
Que d'ailleurs, lorsque Salvini avait proposé une ouverture à Fratelli d'Italia, Di Maio s'y est opposé farouchement. Pour montrer qu'il y a deux âmes dans ce gouvernement. Il faut bien comprendre qu'il y a une compétition entre ces deux âmes et peut-être on va y revenir. Je pense pas que les Italiens, je disais, soient plus racistes que les autres ou moins racistes que les autres. Ce qui se passe, à mon sens, c'est que depuis 94, depuis le premier gouvernement Berlusconi, il y a eu vraiment une avancée dans l'œuvre de banalisation du fascisme qui a lieu déjà depuis quelques décennies en Italie. Et que cette banalisation du fascisme a continué à irriguer la société italienne. Mais il y a un problème plus important, peut-être nous allons y revenir, qui concerne la perception du racisme en Italie. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu un point aveugle, parce que les Italiens n'ont pas une culture de l'identification du racisme.
Alberto Toscano.
Non, mais Ludmila a absolument raison. Les Italiens ne sont pas plus racistes que les autres. Je vois, j'entends, je lis des choses en France. Je pense à cette vague de violence qui a eu des Juifs français et étrangers en France dans le collimateur et qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'Europe entière et même à l'extérieur de l'Europe. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Autriche, je pense en Hongrie, malheureusement, ce qu'on dit, ce qu'on écrit là-bas, à la Pologne. Et il y a aujourd'hui, en Europe, une dimension nouvelle de perte de valeur. Et c'est comme si le chemin de l'histoire allait à l'envers de ce qu'il devait.
Donc si je comprends bien, pour vous, on ne peut pas dissocier la situation actuelle italienne d'une situation globale en Europe.
Non, je voulais continuer.
Allez-y.
Si vous m'autorisez. Et il y a aussi une situation spécifique à l'Italie. Et le déclencheur de cette situation spécifique à l'Italie a été le problème de l'immigration, qui a choqué les Italiens en double titre. Le premier pour le problème en soi, le nombre d'immigrants qui sont arrivés depuis 7 ou 8 ans, surtout en Italie. Cette année, non, l'année dernière, beaucoup moins. Mais là, le problème existe. On ne peut pas le nier. Mais le deuxième, et c'est le choc le principal du point de vue des Italiens, est cette sensation d'avoir été abandonné par l'Europe. Et cette réaction qu'ils ont de vouloir quelque part en découdre avec l'Europe et donc descendre sur un terrain de polémique avec l'Europe et même avec les valeurs. Malheureusement, et je dis, et je souligne, malheureusement, avec les valeurs à la base de l'intégration européenne.
Parce que j'allais vous demander, Alberto Toscano, quel lien vous faites entre ce sentiment d'abandon des Italiens, qu'on a pointé effectivement depuis quelques temps, et l'augmentation quand même des actes de racisme en Italie.
Il y a un lien strict et direct. Quand je parle d'Italiens, je ne veux pas dire les Italiens tous, et même pas la majorité, mais quand même, il y a eu une perception dévastatrice d'une partie significative de l'opinion publique et le lien entre immigration et sentiment xénophobe est évident et c'est de cet élément qu'il faut partir pour développer, à mon sens, le raisonnement et pour trouver, j'espère, des solutions politiques et morales à cette situation qui trouble aujourd'hui l'Italie.
Pierre Musso.
Moi, je pense qu'il faut expliquer le résultat des élections de mars dernier et l'arrivée de la Ligue, je répète, et de Cinque Stelle au gouvernement. Parce qu'il y a un écart énorme entre la réalité de l'immigration, notamment dans la dernière période, comme le rappelait Alberto Toscano, une baisse énorme de l'arrivée des migrants et des réfugiés en Italie. Et en même temps, les récits, la perception, aussi bien dans l'opinion, dans les médias, et surtout dans les discours, en particulier de Salvini, qui instrumentalise ce phénomène. Et c'est d'autant plus préoccupant, me semble-t-il, que le pape François, qui n'a cessé depuis le début des années 2013-14, quand le problème s'est posé essentiellement après le printemps arabe et après la fin des accords avec la Libye qui avait été négocié antérieurement. Donc le pape François, qui ne cesse de dire « il faut faire des ponts, arrêter les murs, il faut accueillir, sinon c'est la guerre, repousser les migrants, c'est comme faire la guerre », le pape François perd en popularité en Italie. Il a perdu 20 points de popularité récemment. Or, l'Église et la religion catholique, on sait que c'est un pilier de la continuité de l'identité italienne et que c'est une des caractéristiques de l'Italie, c'est que le pouvoir spirituel et moral est au Vatican. Il n'est pas dans le champ politique, justement.
Alors, effectivement,
un vrai problème.
Le chiffre que vous citiez, effectivement, c'est une enquête de la Repubblica parue ce lundi. Effectivement, la popularité du pape en Italie est passée de 88% à 71%. On reste quand même dans des chiffres assez élevés en termes de popularité, mais c'est effectivement une question intéressante à soulever. Ludmila Akone, est-ce que vous avez l'impression que le pape François et l'Église sont en train de perdre un pouvoir d'influence sur l'opinion publique, précisément sur ces questions d'accueil de l'étranger?
Quand je parlais de compétition, Salvini fait une compétition aussi avec le pape. Lorsqu'il va montrer l'évangile et prier sur l'évangile dans les places, lorsqu'il a fait les meetings pour la campagne électorale, il est évident qu'il veut se mettre en compétition avec le pape lui-même en disant que c'est la religion chrétienne d'abord, les Italiens d'abord, plutôt que le message de l'Évangile. Donc il y a cette dimension-là. Et donc c'est une question aussi de communication, parce que Salvini est un très grand communicateur. C'est quelqu'un qui a arrêté le bateau, l'Aquarius, lors des élections municipales, premier tour des élections municipales à urnes ouvertes. Et il a tout de suite récolté les fruits de cette opération. Donc c'est quelqu'un qui fait de la communication, qui fait des coups de poing dans l'estomac sans arrêt. Et donc, il est évident que ça, c'est relayé par les réseaux sociaux. Il y a toute une série de médias, mais d'ailleurs tous les médias, même les médias nationaux dans les télévisions, ne parlent que des agressions faites par des immigrés. Des fake news ont été répercutées, comme l'histoire, par exemple, d'une jeune femme qui a été repêchée par une ONG. Et tout de suite, il y a eu une campagne contre elle parce que, soi-disant, elle aurait eu du vernis à ongles et des bracelets qui lui ont été par ailleurs mis par la suite par l'ONG pour essayer de reconforter par rapport à son naufrage. Donc vous voyez comment le moindre détail est utilisé dans cette campagne. Mais si vous voulez bien, après je voudrais revenir sur la question de l'identification du racisme dont je parlais tout à l'heure.
Alberto Toscano.
Je voudrais intervenir sur cette chose des médias parce que quand même il faut donner à César ce qu'il y a de César et aux médias ce qu'il y a de médias. Et on ne peut pas dire honnêtement que tous les médias ont fait un discours raciste et encouragé le racisme. Ce n'est pas exact. Et au contraire, en Italie, il y a eu des médias qui ont pris position courageuse en polémique avec Salvini. Je crois qu'il y a un débat en Italie et qu'il y a des épisodes qui se sont prêtés à des interprétations double tranchant. Par exemple, cette chose dont vous avez parlé, qui a déclenché un peu l'attention même européenne, l'article du Monde sur ça, au sujet de cette athlète d'origine italienne, qui a été objet, qui a été blessée par cet œuf qui a été lancé d'une voiture en course contre elle. On a pris les responsables. D'ailleurs, l'un d'eux est le fils d'un conseiller municipal de la gauche. Et on a, la police considère, peut-être à juste titre, que là, il n'y a pas de racisme. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de racisme en Italie. Hein? Mais ça signifie qu'il faut faire attention aux différents épisodes. Et je crois qu'aujourd'hui, la vague de racisme est avérée et indiscutable.
Et justement,
et je crois que aujourd'hui, Salvini a levé le couvercle de la vase de Pandore, a ouvert la boîte à Pandore, et a décomplexé, comme vous avez dit au début, le racisme, et a dédouané cette vague de vulgarité xénophobe et raciste, qui a son origine fondamentale dans les ressentis de l'immigration. Et Pierre Moustier a raison à dire que souligner le fait que l'immigration a baissé. Mais il y a un ressenti, c'est comme la température. Aujourd'hui, on a 36 degrés, 37 degrés, on en perçoit 42, tellement on a chaud. Et il y a un ressenti de certains, une perception de l'opinion publique. Et là, la perception de l'opinion publique sur la question migratoire est aujourd'hui en Italie dévastatrice.
Pierre Musso, vous parliez tout à l'heure des médias. Vous aviez plutôt l'air de dire que les médias colportaient une vision très négative de l'immigration qui avait alimenté le sentiment de rejet par rapport à ce que dit Alberto Toscano. C'est peut-être pas tous les médias. Il faut
bien
introduire
sûr,
un peu de nuance quand même.
Sûr. Il y a des, comme partout, il y a des médias très différents et très différenciés en Italie. Mais si je prends le cas de Lampedusa, par exemple, où d'un côté, la perception immédiate des Italiens qui sont sur place, des associations, notamment Caritas ou Sant'Egidio, qui sont liés d'ailleurs à l'Église, font preuve d'une grande solidarité. C'est-à-dire, plus on est proche du phénomène, c'est-à-dire plus on voit les morts, si je puis dire, plus on voit les drames, et plus la solidarité se fait. Plus on s'éloigne, donc notamment à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, dans leur diversité, et plus la perception est différente. Et Bourdieu avait une belle formule, il disait « la télévision montre et cache en même temps ». Par exemple, quand on a eu l'image du petit Elad...
Bourdieu aussi montre et cache.
oui, peut-être. Mais quand on a eu la photo du petit Elad, dans toute l'Europe, ça a été un choc. Ne pas montrer les corps, par exemple. Il y a eu 1000 morts sur les repêchés en Méditerranée, côté italien, depuis le début de l'année. Il meurt 3% des migrants ou des réfugiés qui arrivent par la mer meurent. Aujourd'hui, la Méditerranée est en train de devenir le cimetière marin. Donc c'est un véritable drame. Et les médias, notamment les réseaux sociaux, mais beaucoup d'autres, donc il y a une instrumentalisation par le politique et par les médias pour associer immigration à terrorisme, à tsunami, à prise de l'emploi. Parce que dans les causes des résultats politiques et de cette montée éventuelle du racisme, il y a non seulement la question européenne qu'a souligné Alberto, et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il y a aussi la crise sociale et économique. Quand on a un chômage à 11%, une crise terrible, et notamment au Sud, et notamment chez les jeunes, un tiers des jeunes au chômage, les diplômés qui émigrent, italiens, c'est l'Italie qui perd sa substance et son futur à travers ces phénomènes, alors on a ces phénomènes de rejet. C'est pas du tout lié à un néofascisme, pour moi. Là-dessus, je serais très critique. Je pense que c'est beaucoup plus la récupération de toute l'exaspération, la colère, par des mouvements anti-européens, anti-politiques, anti-médias, anti-système.
Ludmila Akone, vous vouliez réagir?
Oui, d'abord, je voulais dire qu'évidemment, tous les médias ne sont pas racistes ou ne divulguent pas une parole raciste. Mais la répétition sans arrêt, tous les jours, de faits où l'on cite sans arrêt la nationalité ou les origines de la personne qui a commis ou supposément a commis un crime, lorsqu'il s'agit d'une fake news. C'est quand même quelque chose qui est une répétition constante. Et quand on vit comme moi, comme on est une Italienne qui vit en France, on le remarque encore plus.
Où est-ce que vous les voyez dans les journaux d'aujourd'hui? Excusez-moi. Dans les journaux d'hier? Moi, j'ai lu au moins 5 quotidiens italiens, je n'ai pas trouvé ça.
C'est parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que peuvent penser les Français, en ce moment, en Italie, la question de fond dont tout le monde parle, c'est les lois sociales de Di Maio contre la précarité et la question de le chemin de fer Paris-Lyon. C'est ça qui est au centre des débats aujourd'hui dans la presse italienne et hier aussi. Donc c'est pour cette raison. Lorsqu'il y a un attentat ou lorsqu'il y a une agression ou lorsqu'il y a un hold-up et que l'on cite sans arrêt la nationalité supposée ou réelle de la personne ou le violeur ou le braqueur, c'est quand même quelque chose qui fait une répétition. Et ça, vous le savez très bien, Toscano, ça se passe sans arrêt.
Alors, aujourd'hui, les quotidiens italiens parlent d'une tragédie, qui est le fait que 12 migrants sont morts dans les Pouilles suite à un accident de voiture. C'est le révélateur d'une situation criminelle qui est heureusement condamné par au moins les principaux quotidiens italiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ces migrants ont été exploités d'une façon barbare dans l'Italie du Sud pour la cueillette de tomates, pour 3 sous, et en plus, ils rentraient chez eux tous à 15 dans une camionnette où il y avait 7 places. Il y a eu un incident et ils sont 12 sont morts. Cette tragédie aujourd'hui est le révélateur du fait que la question migratoire a des conséquences sur la société italienne tout entière. Et certains entrepreneurs agricoles sans scrupules exploitent ces migrants. C'est une raison de plus pour faire en sorte qu'il y ait un règlement et un contrôle sur la question migratoire. On ne peut pas ouvrir les portes de façon complète, mais on doit accueillir dignement ceux qui arrivent en Italie, en France et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'Italie sur la question migratoire.
Vous n'êtes pas vraisemblablement pas d'accord les uns et les autres sur la manière dont les médias italiens traitent et les mots qu'ils emploient sur la question des migrants. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un effet des réseaux sociaux qui apporte de la confusion justement dans le débat public et peut-être une violence particulière qui s'exprimerait sur les réseaux sociaux et qui introduirait cette confusion, Pierre Musso?
Moi, je pense que cette perception n'est pas liée qu'aux médias. Les médias ont bien sûr une place dans l'opinion, mais le discours des politiques au moment où, en fait, il y a de moins en moins d'immigration irrégulière. Parce que n'oublions pas que l'Italie a 5,5 millions d'immigrés réguliers. C'est 8% de la population. Et même dans l'immigration dite irrégulière, elle est au 11e rang européen. C'est la Suède qui est en tête. L'Italie est au 11e rang. C'est à peu près 2 personnes pour 1000 habitants. Donc, on voit bien qu'il y a un écart entre la perception et la réalité, qui est grandissant et qui est exploité quotidiennement par Cinque Stelle, et j'insiste, il n'y a pas que Salvini. Cinque Stelle, qui a été présenté comme un mouvement presque de gauche dans certains pays démocratiques, en fait, c'est un parti attrape-tout, dans lequel il y a des positions quelquefois proches de la social-démocratie, mais qui, en même temps, peut être tout à fait raciste et xénophobe dans certaines de ses positions et de ses déclarations. Donc, c'est pas pour rien, il faut expliquer le phénomène actuel aussi par la crise sociale, économique et la crise politique. Moi, c'est le point clé pour moi. La crise politique italienne, après Berlusconi, après Renzi, après l'échec de la social-démocratie italienne après le passage de Berlusconi, c'était quoi la réponse? C'était des partis personnels. C'était Berlusconi, c'était Renzi, etc. Aujourd'hui, la réponse politique, c'est l'anti-politique. C'est-à-dire que ces partis qui exploitent cette réalité sont anti-Europe, anti-immigrés, anti-politique, anti-système, anti-média, anti, etc. Et c'est ça la cause majeure pour moi du phénomène, au-delà, bien sûr, de la crise économique et sociale dont je parlais. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours mettre au cœur la question médiatique qui sont, je rejoins tout à fait Alberto, très, très diversifiés dans leur expression.
Vous parliez à Pierre Musso de la crise des partis politiques. Je voulais justement vous faire entendre les propos de Mercedes Bresso. C'est une députée européenne, membre du Parti démocrate, et qui défend à notre micro le bilan du parti.
Ex-présidente de la région Piémont et ex-députée du Parti communiste italien.
Absolument, et qui défend le bilan du Parti démocrate sur les questions notamment d'immigration au micro de Coppelia Menardi.
France Culture, Du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandron.
L'Europe se sent affaiblie, elle sort d'une longue crise, elle a peur des migrants, elle a peur des réfugiés, et elle vacille par rapport à ce que son devoir. Donc la gauche ne peut que faire à son tour son devoir. Vous savez, on n'est pas toujours obligé de gagner si on a raison. Je crois que les devoirs humanitaires sont propres de la gauche. La gauche ne peut faire que ça. Si les citoyens ne sont pas d'accord, peut-être on n'a pas réussi à les convaincre. On croyait avoir réussi parce que la politique avait été aussi efficace. Je crois qu'il faut, continuer à essayer de faire raisonner les gens parce qu'on n'est pas en face d'un grand problème concernant les réfugiés et les migrants. Il est tout à fait sous contrôle, le phénomène, avec tous les problèmes, bien sûr, qu'il y a, mais il est sous contrôle. On n'a pas l'Afrique en train de déferler sur l'Europe, ce n'est pas vrai. Mais le langage qui est passé à travers, pas tellement les médias, mais les social networks, je crois que a été un langage non de vérité, hein, de mensonge. Et ça, sûrement, ça n'a pas aidé la vérité, ça n'a pas aidé la gauche.
Ça n'a pas aidé la vérité, ça n'a pas aidé la gauche. Mercedes Bresso, députée européenne, donc membre du Parti démocrate, le Parti démocrate qui a été beaucoup accusé en Italie d'être responsable quelque part de la situation actuelle. Ludmila Akone, est-ce que ce sont des accusations que vous reprenez?
Écoutez, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la situation du racisme en Italie ça date déjà depuis plusieurs décennies. Et je me permets de revenir sur deux choses. D'abord, la question de l'agression de la jeune athlète, que l'on pense ou pas qu'il s'agisse de racisme. J'ai entendu les commentaires de tous les hommes politiques qui ont été interviewés et aussi des journaux. Il n'y a pas de racisme en Italie, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je pense, je ne cite pas les deux attaques au couteau et à la carabine qui ont eu lieu contre des immigrants vendredi dernier, parce qu'on pourrait faire une longue liste. Mais la question, si vous voulez, c'est que lorsque on a une agression qui est franchement raciste, qui a comme objectif des Noirs, auxquels on tire dessus, eh ben les réactions, c'est ce n'est pas, non, ce n'est pas, l'Italie n'est pas raciste. Personne ne dit que l'Italie est raciste, mais ce sont des actes racistes. Ce sont des actes racistes clairement. Et je pense qu'il y a un problème aussi historique sur l'identification du racisme et qui vient notamment de l'impossibilité qu'ont beaucoup d'Italiens, je dis bien beaucoup, pas tous, de penser ce qu'a été le racisme pendant le fascisme. Et que ce point aveugle, qui est une incapacité à comprendre que le fascisme a été raciste et bien avant les lois raciales de Mussolini, avec Hitler en 1938, eh bien, c'est quelque chose qui a, à mon avis, empêché en Italie un débat intellectuel comparable à celui qui a eu lieu dans d'autres pays, pour pouvoir identifier le racisme, pour le nommer et donc pour le combattre. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de racisme, quand on dit non, le fascisme n'a pas été raciste, vous voyez, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a un déni de sa propre histoire, qui fait pas que les Italiens sont plus racistes que les autres, mais voilà, nous savons qu'en 37, il y a déjà eu des premières lois contre les mariages mixtes en Afrique du Nord par les fascistes. Vous voyez, donc il y a une série de questions que nous pouvons mettre en évidence pour comprendre que oui, l'Italie n'a pas été immunisée du racisme comme on peut l'imaginer.
Un déni du passé, un déni et du fascisme, un déni du racisme, Pierre Musso.
Oui. Je suis d'accord là-dessus, mais en revanche, je n'analyserai pas ça comme un retour du fascisme ou un néo-fascisme, dans la mesure où c'est complètement anachronique. Je refuse même l'étiquette de populiste qui fait Florès, parce que ça définit rien, ça définit uniquement un style. Pour revenir à la déclaration concernant le Parti démocrate qu'on écoutait, il faut quand même pas oublier que Gentiloni, qui était le successeur de Renzi, juste avant l'arrivée du nouveau gouvernement, a passé un accord honteux avec la Libye, ce qui a permis d'ailleurs de réduire l'arrivée. Mais on sait ce qui se passe en Libye, les incarcérations, les drames, les mafias, etc. Donc, je pense que Renzi avait eu une bonne position, qui était de dire il faut une répartition proportionnelle des migrants et des réfugiés dans toute l'Europe.
Et ça, c'était une position qui aurait dû être soutenue par la France, qui ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on est toujours face à cette situation. L'Europe ne trouve aucune solution. Elle joue sa survie, l'Europe, sur la question, sur cette question, beaucoup plus que sur les questions budgétaires et financières. Et le pape, je dirais, non seulement est en train de combattre Salvini et d'autres, mais à mon avis, il est en train de donner à l'Europe son vrai fondement moral, éthique et politique. Ce qu'a bien compris Angela Merkel, même si ça lui crée des difficultés. Mais donc, la répartition équitable est tout à fait faisable. Évidemment, il y a l'opposition d'Orban et de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, qui maintenant est rejoint par Salvini. Mais cette répartition, cette solidarité était une solution parmi d'autres. Or, on a vu au dernier sommet de 28-29 juin du Conseil européen, qu'est-ce qui a été proposé ? De créer des plateformes régionales de débarquement dont personne ne veut, à commencer par les pays qu'on a sollicités en Afrique, et dont le président de l'Union a dit « on ne sait pas ce que ça va devenir ». Conclusion, aucune décision. Donc la critique qui est faite par la population italienne, qui était la plus europhile il y a 30 ans, et qui devient maintenant un tiers des Italiens reste europhile, 75%, 70% deviennent eurosceptiques. Et donc, cette critique est légitimée chaque fois un peu plus par la non-décision sur ce sujet stratégique de l'Europe.
Alberto Toscano, je vous voyais opiner du chef.
Ludmila a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec elle, a souligné le fait que l'importance et la gravité de certains actes racistes. Il y a eu un cas atroce d'un bébé en bas âge, d'origine rome, contre lequel un criminel a tiré une arme à air comprimé et lui a touché la colonne vertébrale et sera paraplégique toute sa vie. Hein? Il y a eu des actes atroces à évidente connotation raciste. Raison de plus pour ne pas tout mélanger et pour considérer ces actes dans leur gravité et les lire chacun après l'autre et espérer que l'enquête de la magistrature puisse punir les responsables comme ils méritent. Pour ce qui regarde la question migratoire, qui, je répète, est absolument centrale du point de vue de la perception actuelle de l'Italie, de toute une série de problèmes, c'est vrai. La question libyenne est centrale et Pierre Bonsoir a absolument raison à le souligner. Mais là, on ne peut pas se limiter à Gentiloni. Si on va à expliquer, alors on va dès le début. Un certain Nicolas Sarkozy, un certain Bernard-Henri Lévy, qui en 2011 ont malheureusement insisté et ont pu traîner derrière eux l'Europe et l'OTAN sur une aventure militaire qui a, c'est vrai, éliminé un dictateur, mais qui a déstabilisé un pays et plus qu'un pays. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali et dans d'autres pays est la conséquence aussi de ce qui s'est passé en Libye. On a déstabilisé un pays et on n'a pas eu le courage, la détermination et la force pour rétablir une stabilité plus avancée sur le plan institutionnel et démocratique. Non, on a laissé un vide. Et le terrorisme, et là, je dis vraiment le terrorisme, parce que prospère dans le vide. Et la Libye est devenue un pays où il y a tout. Il y a les formations islamistes les plus militantes, et il y a des formations démocratiques aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une perspective commune européenne et d'une perspective commune de l'OTAN pour essayer de faire en sorte que la Libye retrouve une stabilité.
Et
il faut faire en sorte que l'Europe assume sur elle, dans son ensemble, la responsabilité de la gestion de la question migratoire. Il est inconcevable que l'Italie, Malte, la Grèce et l'Espagne soient laissées seules devant ce problème.
C'est effectivement une question légitime et qui est soulevée par l'ensemble des responsables politiques en Italie. En attendant, il y a depuis 2 mois en Italie un gouvernement formé de la coalition, vous l'avez rappelé, de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Certains disent l'Italie est le laboratoire politique de l'Europe. Elle a souvent été le laboratoire politique de l'Europe. Qu'est-ce que cette coalition, encore une fois là, depuis 2 mois, c'est assez peu pour en tirer encore des grandes conclusions, mais peut augurer d'un certain climat européen qu'on voit par ailleurs aussi en Hongrie, par exemple, en Pologne, Ludmila Hakone.
Oui, je pense que la situation est effectivement très complexe, mais il faut regarder aussi de plus près cette espèce de bras de fer entre Di Maio et Salvini, non pas l'un contre l'autre, mais chacun pour essayer de conquérir la plus grande place dans le pays. En ce moment, je le disais tout à l'heure, le débat est autour des lois anti-précarité qui ont été fait voter par Di Maio, qui s'apprête à faire voter le revenu citoyen. Donc Salvini a eu son heure de gloire avec la question de l'Aquarius et il essaye manifestement toujours de faire le coup d'œil vers Fratelli d'Italia. Donc, on peut se demander si Salvini, et on revient à la question de tout à l'heure, je ne pense pas que Salvini soit un fasciste tel qu'on l'entend, je ne pense pas que le fascisme soit à nos portes, mais il essaye d'établir des liens, et on peut même se demander s'il n'essaye pas de faire une sorte de bloc social réactionnaire, comme le dirait Antonio Gramsci, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international avec ses alliés de Visegrad notamment, c'est-à-dire que il s'agit pour lui de élargir son champ avec des gens qui peuvent aussi avoir des idées vraiment fascistes comme Casa Pound ou d'autres qui sont de son côté. Di Maio, lui, il est sur les lois sociales, il est sur les questions des grands travaux, de l'écologie, etc. Donc on est vraiment sur un pays qui est coupé en deux quelque part entre la Ligue du Nord, enfin la Ligue dans le Nord et 5 étoiles dans le Sud, qui font chacun une politique qui n'est pas en contradiction ou qui essaye de garder l'unité, mais chacun a son domaine d'action.
Pierre Musso.
Je voulais dire à propos des actes racistes, parce que bien sûr il y en a de nombreux, mais pendant la campagne électorale, il y en a eu un qui était très important, c'est Macerata, un ancien militant ou élu de la Ligue, tire et tue un immigré africain. Donc, et aussitôt, la Ligue va progresser. Donc, il faut bien voir le lien qu'il y a entre ce phénomène et ses conséquences politiques. Et ses causes. Et ces causes sont, moi j'insiste, elles sont beaucoup aussi économiques et sociales, y compris dans l'échec du Job Act de Renzi, dans la retraite à 67 ans, dans les contraintes budgétaires et le vieillissement de la population, la pauvreté qui s'étend, les jeunes diplômés qui s'en vont, le taux de fécondité qui est très inférieur, 1,3 en Italie, alors qu'il faudrait 2,1 pour le renouvellement. Donc l'Italie est en train de perdre son futur avec tout ça. Et je pense que là, la question politique est centrale, c'est-à-dire qui a gagné. C'est pas l'alliance Salvini-Di Maio. Dans les élections, Salvini était allié avec Berlusconi et Fratelli d'Italia. C'est-à-dire, en gros, c'était le centre-droit, c'était la vieille alliance entre le centre-droit et la droite dure, et la social-démocratie qui s'est effondrée, à peu près à 20%. Et Cinque Stelle, voulant accéder au pouvoir, parti attrape tout, fait l'alliance que personne ne voyait venir, à part un ou deux, avec Salvini. Donc, je veux dire, c'est pas le vote des Italiens, c'est une combinaison politicienne pour prendre le pouvoir à ce moment-là, parce qu'il y avait une majorité possible au Parlement. Et aujourd'hui, qui est exploitée à des fins politiciennes, et je rejoins votre analyse.
Là, c'est la Constitution italienne, mais je ne crois pas que c'est le sujet de notre débat, mais là, c'est la Constitution italienne, qui est l'Italie, la République parlementaire. Et exactement sûr. Comme si c'est passé avant le gouvernement.
Mais il y avait d'autres alliances possibles.
Oui,
mais il y en avait bien sûr.
Bien sûr, mais dans tout le cas de figure, il y aurait eu une division de l'alliance de droite qui arrivait en première position. Parce que, dans tous les cas de figure, l'autre, l'alternative...
Une partie des partis démocrates voulait faire l'alliance.
L'imagine.
On va pas refaire le débat sur les alliances politiques, mais comme il reste 5 minutes...
Un débat sur les élections. Le parti démocrate est lui qui a refusé l'alliance avec les 5 étoiles.
Une partie.
Ceux qui ont décidé, c'est-à-dire Matteo Renzi.
Il nous reste même 4 petites minutes. Je voulais vous demander, vous avez recité les uns les autres d'autres actes racistes qui ont lieu récemment en Italie. Quelle est la responsabilité, selon vous, du gouvernement de Matteo Salvini dans le fait de condamner, on va dire, parfois mollement ces actes? Est-ce que vous diriez, comme certains...
c'est encore le gouvernement de Matteo Salvini.
Pardon, oui, le Premier ministre Salvini, en tout cas, il en fait partie. Et comment est-ce que vous voyez la responsabilité du Premier ministre, en particulier Matteo Salvini, dans le fait, comme l'ont dit peut-être certains, d'avoir libéré une parole et les actes racistes?
C'est une grosse responsabilité. Et je disais tout à l'heure, il a ouvert la boîte de Pandore. Jusque-là, mais c'est vrai ce que disait Ludmilla tout à l'heure, et dans le sens qu'il y avait une certaine peur, prudence des Italiens en général, de l'homme de la rue, à utiliser ces mots, à plaisanter sur ces choses. Là, la parole s'est libérée, et Salvini, vice-président du Conseil et chef de la Ligue, homme d'extrême droite, qui au Parlement européen a le groupe commun avec Marine Le Pen, Salvini a eu une lourde responsabilité sur ce terrain.
Ludmila Hakone, dernier petit mot avant
la
fin de l'émission.
Il y a deux jours, le ministre Fontana a proposé d'abroger la loi qui punit les actes racistes et aussi la banalisation du fascisme en partie. Et immédiatement, Luigi Di Maio s'est opposé et Conte, le Premier ministre aussi, s'est immédiatement intervenu. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on a effectivement, on continue d'avoir cette compétition au niveau du gouvernement, mais tout en voulant rester une coalition. Donc il y a un enjeu à faire en sorte que les choses n'aillent pas du côté de Salvini, si vous voulez. Je pense que vraiment c'est très important que les choses n'aillent pas du côté qui penche vers des sympathies, y compris fascistes, hein, vers Fratelli d'Italia et Casa Pound.
Et il reste donc au sein même du gouvernement des garde-fous, si
il reste
bien.
Des garde-fous. À l'heure actuelle, on discute des droits sociaux, on discute de ces questions-là. Je pense qu'il faut... le problème, il a raison... il a raison. Effectivement, une alliance avec le PD, c'était possible. Le PD n'a pas voulu le faire. Et c'est ça aussi qui pose un problème.
Bon, et bien, on ne pourra pas revenir effectivement sur les alliances entre partis italiens, mais la situation en Italie, on va continuer de la suivre attentivement. Et évidemment, merci beaucoup à tous les trois d'être venus en discuter ce soir. Ludmila Hakone, Pierre Musso, Alberto Toscano, les références de vos ouvrages respectifs seront à consulter sur le site de franceculture.fr à la page du grain à moudre d'été, une émission préparée par Coppelia Menardi, Leila Saidi, Marine Lerouge, Isolte Sicard et Imen Mélaz, réalisation Alexandra Longuet, prise de son ce soir Emmanuel Morse-Duncan et Kevin Boisseau. On se retrouve demain 18h15.